C'est sur les hauteurs de Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence, que nous partons à la rencontre d'un jeune couple d'éleveurs, direction Méziens, sur la commune d'Entrepierre, où Mathilde et Benjamin se sont installés depuis quelque temps pour se lancer dans l'élevage de caprins et d'ovins. C'est au cœur de leur exploitation, la ferme d'Alpuy, que nous retrouvons Mathilde et Benjamin au micro de Chris Alessandri.
Alors, je m'appelle Benjamin Dupuis, j'ai 21 ans, j'ai fait un bac pro en élevage au vin à Carmejane. Ça fait à peu près 5-6 ans que je suis dans le métier. Et aujourd'hui, ça fait 8 mois que je suis installé en brebis laitière race brigasque sur la commune d'Entrepierre.
Benjamin, simplement pour situer un tout petit peu le merveilleux endroit où nous nous trouvons.
Eh bien là, on est sur la commune d'Entrepierre, donc dans le 04, à peu près un quart d'heure de Sisteron, sur le col de Fombelle. Donc on est entre pas mal de montagnes, on est dans un coin quand même pas trop mal pour les bêtes. Voilà, on est pas mal sur cet endroit-là.
Propriété impressionnante que vous avez.
Oui, on a une jolie propriété, mais on n'est pas des gros exploitants non plus. On essaie de rester quand même raisonné sur les bêtes. On essaie de sélectionner, on a sélectionné aussi une race par rapport au lieu, par rapport à son adaptation et à ses milieux. Voilà.
Comment vous êtes arrivé là? De quelle façon? Pourquoi vous avez choisi? Puis vous n'êtes pas seul?
Non, je suis pas seul. Je suis avec ma compagne Mathilde. Pourquoi je suis arrivé là? C'est quand même une sacrée longue histoire parce que je travaillais avant sur le Puy Saint-Réparade avec mon cousin. Donc après, j'ai préféré arrêter et monter ici pour avoir plus de tranquillité sur le travail, pour pouvoir travailler plus avec mes bêtes et plus tranquillement. Et je suis arrivé ici pour le plaisir du paysage, de l'endroit et quand même du lieu qui est quand même magnifique. Quand même. Et on a surtout une zone de travail qui est quand même pas mal et c'est bien de travailler ici, ça change tous les jours et on n'est jamais sur le même truc. Quoi.
Benjamin, comment se vit la vie au quotidien?
La vie, elle se vit tranquille avec. Ça dépend des.
Tranquille façon de parler.
Ça dépend des saisons. En ce moment, on est dans les fenaisons. Donc aujourd'hui, on a une partie de tente. Oui, on s'arrête pas trop, on court un petit peu, mais bon, c'est le plaisir du métier. Après, l'hiver, c'est plus tranquille parce que du coup, on ne travaille que l'été, on a que l'été, l'hiver, les brebis sont en gestation. Donc voilà, en ce moment, c'est un peu la bourre, mais bon, c'est normal, on a le beau temps qui est avec nous aussi, donc on en profite, mais sinon, ça fait des belles journées quand même.
Dans ces grands espaces, je vois également des chevaux, pas très loin.
Les chevaux, c'est pas les nôtres, mais c'est ceux des collègues, mais on a un peu des chevaux à côté. Il y a des collègues qui ont des vaches à viande, des porcs et des chèvres aussi. Donc aussi, on est un paquet d'éleveurs à travailler ensemble et on essaye aussi de valoriser le pays, ce petit pays qu'on est dans notre petit coin, à essayer de le valoriser au maximum tous ensemble.
Vous parlez un peu de l'esprit à Mézin, comment ça se passe? Vous parliez de vos voisins avec les chevaux, quelle est l'ambiance?
L'ambiance, elle est compliquée, on est arrivé ici, elle est compliquée avec certaines personnes, mais bon, voilà, c'était un peu la guerre parce que on est nouveau.
Vous êtes des jeunes?
Voilà, on est des jeunes aussi, ça dérange un peu aussi. Et non, on essaie de faire notre place et j'essaie aussi de faire surtout notre travail. Voilà, penser à nous, penser à notre travail déjà pour commencer, parce qu'il faut avancer dans ce sens-là. Et surtout, travailler avec les gens qui ont envie de travailler. Donc, ça veut dire le domaine à l'art et Marion Curti qui a les vaches et lui qui a les porcs. Voilà, donc on essaie de travailler tous ensemble pour faire le maximum de travail, faire le meilleur travail possible et se lever le plus de pénibilité possible aussi.
Vous avez à vos côtés Mathilde, vous l'avez dit. Benjamin, et Mathilde, quelles sont les qualités qu'il faut requérir pour s'adapter, pour évoluer aussi, parce que c'est votre but?
Les qualités pour s'adapter, pour évoluer, s'adapter déjà, on a une nouvelle race, donc déjà pour s'adapter, il faut qu'on l'apprenne. Et après, pour s'améliorer, on essaie de s'améliorer au maximum en fonction des saisons, en fonction du temps. On essaie de suivre la nature au maximum, on essaie de l'écouter, de la regarder au maximum, de suivre les bêtes aussi, on vit à leur rythme, on ne vit pas au nôtre. Donc on essaie de les laisser faire au maximum pour qu'elles puissent faire leur vie tranquille. Quoi.
Et ça, vous saviez le faire avant?
Alors avant, dans l'élevage que j'étais, oui, on le faisait beaucoup parce que l'élevage était plus gros, on n'avait pas la même race, donc je connaissais pas la brigasque. Il a fallu que je me modifie un peu sur quelques modes, mais bon, sinon dans le grossier du travail, j'étais quand même pas mal déjà là-dessus.
Quelles sont les épreuves peut-être auxquelles vous avez dû faire face, que vous n'aviez pas envisagé avec votre compagne quand vous êtes arrivé ici?
Les trucs qu'on a pu faire face, déjà au climat, c'est un climat tout à fait différent, on est sur un climat beaucoup plus sec que où j'étais avant. Il a fallu s'adapter aussi avec les bêtes parce que c'est une race que je connaissais pas du tout, qu'il a fallu qu'on apprenne tous les deux et qu'on apprenne aussi à la travailler. Donc c'est pour ça qu'on a sélectionné des bêtes qui étaient assez âgées, donc qui avaient entre 5 et 10 ans, pour qu'elles puissent nous guider plus nous, qu'elles nous guident comme il faut, que ce soit pas l'inverse quoi.
Il y a des chiens autour?
Oui, on a des chiens. Les chiens de troupeau, on est obligé de les avoir parce qu'on a beaucoup de prédation par ici. Donc, on est obligé de les avoir. C'est pas un plaisir de les avoir. Si on pouvait éviter de les avoir, ça serait pas mal. Mais on n'a pas le choix maintenant de les avoir parce que sinon, c'est trop de problèmes au quotidien. Voilà.
Vous avez parlé de la prédation pour développer un tout petit peu. Nous sommes en hauteur en plus ici.
Ben, la prédation ici, on l'a plus ou moins, ça dépend. Nous, sur notre coteau à nous, on est à peu près tranquille, on va dire, parce que on est quand même assez protégé. Par contre, on a des collègues qui ont été attaqués 2-3 fois avec le loup. C'est surtout le loup qui nous dérange ici. Bon, qui nous dérange. Il faut travailler avec, parce qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. On ne peut pas non plus le lever, mais il faut savoir travailler avec, il faut savoir s'adapter. C'est compliqué. On s'adapte du coup en mettant des chiens, du coup, ça nous coûte aussi à nous, ça coûte aux bêtes, ça coûte à tout le monde. Et c'est pas non plus le travail comme ça, parce qu'on n'a pas le choix, mais voilà, c'est en fait la contrainte de la nature. On suit la nature, on n'a pas le choix.
Benjamin, aujourd'hui, c'est une journée de travail spécifique. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très spécial à faire. Comment ça se passe et qu'est-ce que vous faites ?
Aujourd'hui, le travail spécifique, c'est la tonte, donc c'est une fois par an. C'est tombé un peu aujourd'hui, ça n'est pas tombé aujourd'hui, mais c'est comme ça. Et la tonte, c'est une fois par an, on est obligé de l'étendre. Donc nous, ici, je préfère l'étendre le plus tard possible pour éviter les coups de froid, qu'on a quand même des laitières, parce qu'on a eu des températures froides jusqu'à il y a 15 jours en arrière, on a eu quand même encore du 5-6 degrés le matin, donc ça fait quand même froid. Donc on préfère tondre un peu plus tard. Et la tonte, c'est important parce que ça permet aux bêtes aussi de respirer l'été. Nous, l'été, on lève le pull, elle lève la laine, donc c'est pas mal. C'était le moment de la journée, voilà.
On va voir un peu comment ça se passe.
Si vous voulez.
On y va alors. Qu'est-ce qu'on a comme superbe animal ?
Le superbe animal qu'on a, du coup, c'est un bélier. C'est notre reproducteur qu'on va devoir lever parce que pour éviter la consanguinité. Donc, on va le vendre pour qu'il soit valorisé dans une autre exploitation. Et va falloir en reprendre, du coup, de nouveau. C'est lui, du coup, qui nous fait le travail de la saison. Du coup, sans lui, on ne peut pas avoir de lait, on ne peut pas avoir tout le travail qui va derrière.
Productif ?
Voilà, productif. Et oui, c'est ça. Il ne travaille pas beaucoup dans l'année. Il ne travaille qu'un mois dans l'année. Il n'a pas un travail trop pénible. Ça devrait aller pour lui. Mais sans lui, on n'a pas la saison de lait qui va derrière parce qu'il faut bien penser que si les brebis ne font pas l'agneau, on n'a pas de saison de lait derrière. Voilà.
Quel âge il a ?
Lui, il est un peu vieux. Il commence à avoir 10 ans, mais il travaille très bien et il fait un bon travail. Voilà.
Et on s'y attache ?
Oui, on s'y attache beaucoup. Ben, c'est des bêtes. On n'a pas un gros troupeau en plus, donc on n'a qu'une quarantaine de bêtes. Donc on s'y attache beaucoup. Puis c'est des bêtes qu'on travaille tous les jours avec, on les manipule tous les jours. Donc c'est des bêtes qui sont très attachantes. C'est pas un chien, mais on n'est pas loin du chien. Quoi.
Ça, comment il s'appelle ?
Maurice. On l'a appelé Maurice.
Voilà,
c'est comme ça. Maurice ou Marcel, c'est un peu voilà, le nom qui vient. Lui, s'en fout. Il ne se rappelle pas bien de son nom, mais bon, voilà.
Je vais lui rappeler tout à l'heure.
Je sais pas si c'est son...
Alors là, nous prenons la direction du pâturage avec les moutons bien encadrés. Et nous suivons Benjamin et Mathilde à travers la verdure et les ombrages, les beaux ombrages ici de Mézin. Nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence, du côté de Sisteron. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant ?
Eh bien là, on vient de sortir les brebis donc, dans les prés pour qu'elles puissent aller manger la journée. Parce que comme on les sort au maximum à l'extérieur. Donc elles sortent à peu près entre 12 et 16 heures par jour, au max. Et donc là, elles vont manger tranquillement dans nos parcours pour bien valoriser au maximum nos collines aussi.
Là, vous avez mis la clôture, ça y est, pour les parquets. Hein.
Voilà, elles sont parquées, donc nous, on les parque à la journée. En ce moment, on est dans des talus qui sont très sales. C'est des brebis qui aiment les endroits très sales et très feuillus.
Pourquoi ?
C'est une race qui est faite pour, donc il faut spécifier quand même que la brigasse, qu'elle vient de la brigue, dans la vallée de la Roya. Ce sont des endroits quand même qui sont sales et très pentus quand même, où il y a beaucoup de rocailles. Et c'est des brebis qui ont plus la tête en l'air que par terre. Donc c'est des brebis qui valorisent extrêmement bien nos collines quand même. Et très adaptées aussi à nos milieux qui sont plus d'arbres que d'herbes.
Dimanche, ça ne les traumatise pas de se faire tondre ?
Non, pas du tout, ça leur fait plaisir. Alors, elles ont un peu peur de la machine, donc parce que ça fait un peu de bruit, mais après, sinon, elles sont très contentes parce qu'elles sentent l'air quand même. Là, vous voyez, elles ont bien couru pour sortir. Donc,
vous aussi, d'ailleurs.
Ouais, nous, moi aussi, des fois. Sinon, elles ne nous suivent pas, mais elles sont contentes, ça leur fait du bien, ça leur fait de l'air. C'est comme nous d'enlever un bon pull, si l'été vous gardez tout le pull, vous avez chaud, donc ça fait du bien de l'enlever aussi.
Ça allège.
Ça allège, elles sont contentes, puis là, elles vont les manger tranquillement toute la journée, on les rentrera vers 5-6 heures ce soir pour la traite, et voilà.
Alors maintenant, vous allez faire quoi ?
Ben, maintenant, on va continuer à attendre, on a une deuxième lot à attendre maintenant, donc les agnelles. Les brebis qui prendront le bélier au mois de septembre, les nouvelles brebis du coup, ce qu'on appelle les agnelles, et on va tondre celle-là, puis après on va continuer notre journée de fenaison parce qu'on a attaqué les foins du coup. On a commencé à couper, ça fait déjà 3 semaines qu'on coupe un peu du foin quand le temps nous le permet, parce que quand même il est assez capricieux en ce début d'année, donc on va essayer d'aller après travailler dans les champs, on a un peu de fenaison à faire, voilà.
Et quand la soirée arrive, vous faites quoi?
Ben après on part à la traite, et après à la traite donc Mathilde part en fromagerie, moi soit je repars sur les terres, soit j'y file un coup de main en fromagerie, et après notre journée elle se finit vers 8h30 à peu près, voilà, on fait des bonnes journées quand même.
Un peu de repos après?
Oui, après un peu de repos, après on mange, on va se coucher, et puis après jusqu'au lendemain 6h30 on ne touche plus rien, voilà.
Mais Benjamin, là c'est très physique, hein, ce que vous faites. Il y a des circuits spécifiques et l'attente a lieu.
Oui, c'est ça, on a des circuits spécifiques, on fait tourner les bêtes dans un certain sens, dans le même sens de travail que d'habitude, qu'on les traite, comme ça elles ont l'habitude. Et oui, on a une bonne organisation, ça marche.
Il faut les prendre vraiment à bras le corps, les bêtes.
Normalement on évite, mais là comme c'est des années, elles sont légères, donc on peut se permettre. Sinon on essaie de maximum travailler avec le poids de la bête pour éviter de blesser la bête et de se blesser aussi à nous, parce que c'est quand même un travail de tous les jours, quoi. Donc il faut faire gaffe dans le temps, quoi.
Je vois que la tonte se fait avec beaucoup de précision et de délicatesse.
Ah, oui, le tonneur est très précis, très délicat, il prend son temps avec chaque bête et faut. Il le faut, voilà.
Je vois que Mathilde tient compagnie à une bête.
Oui, elle l'a attrapée pour préparer pour le tonneur, comme ça le tonneur ne s'arrête jamais et il peut les enchaîner une par une pour avoir le temps aussi de pouvoir travailler tranquillement et de ne pas de se presser pour pouvoir les attraper.
Alors là, nous en sommes où de la journée?
Ben là, la journée, on va bientôt avoir fini la tonte. Et quand la tonte sera finie, du coup, ben moi, je partirai après dans les terres pour faire un peu de fenaison, comme je disais tout à l'heure, faire un peu pour les foins. Et après, la journée, cet après-midi, elle sera encore bien remplie. On a encore de l'herbe à couper, donc on a encore quelques hectares à faucher. Et après, il y aura encore la traite, la fromagerie. Puis la fin de journée, elle va vite arriver, parce que les journées, on ne les voit pas défiler. Donc voilà.
Quelles sont les attentions particulières qu'il faut amener au troupeau? Parce qu'il faut vraiment... On ne peut pas le laisser seul un instant, à part quand on le rentre à la bergerie.
On ne peut pas le laisser seul un instant. Si les journées, quand même, elles sont seules, elles sont tranquilles. Après, non, il faut les surveiller. Il faut être à l'attention de elles tous les jours. Nous, on a une énorme chance, parce qu'on n'a pas beaucoup de problèmes, autant de sanitaires que de problèmes. C'est des bêtes qui se débrouillent très bien. C'est des bêtes qui n'ont pas de problème. Donc après là-dessus, oui, on y est tous les jours parce qu'il faut quand même faire la traite, donc on les voit quand même tous les jours. Mais après sinon, c'est des bêtes quand même qui se débrouillent assez bien toutes seules. Et plus elles ont de l'espace, et plus ça leur plaît qu'elles sont tranquilles et que, voilà, comme là tout à l'heure on les a sorties, elles aiment bien avoir de l'espace et pouvoir promener tranquille à leur aise et faire un peu leur vie, et ça leur plaît.
Voilà. Alors la traite, qui dit traite dit lait automatiquement et ensuite?
Ensuite, donc le lait, on fait une traite à la main pour l'instant, parce qu'on n'a pas beaucoup de bêtes et que c'est des bêtes qui se traitent très bien à la main. Et après, sur la fromagerie, donc c'est surtout Mathilde en ce moment qui y est. Bon, moi, j'y suis aussi, mais beaucoup moins que Mathilde quand même. Donc après, on fait des lactiques, donc une transformation en fromage. Et après, on fait plusieurs desserts. Donc on fait du fromage blanc. On fait un caillélis type brousse du Var, qu'on appelle le délice de lait. Après, on fait donc du fromage à tartiner, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et après, on fait des types bouchons apéritifs. Pour les ans, on fait que ça, parce qu'on n'a pas une grosse production de lait. On n'a que 30 brebis, donc ça ne fait pas beaucoup. Et l'année prochaine, on essaierait de monter. On veut monter à un stade où on peut vivre tranquille sans avoir trop de bêtes et sans les pousser. Donc on aimerait monter à 70-80, on en aurait largement assez.
Il y a un cahier des charges à respecter systématiquement et qui est très verrouillé aussi.
Ben, pour rapport à nous, comme on est un producteur, on n'a pas trop de cahier des charges très spécifique, on va dire. Pour nous, on a un cahier des charges quand même pour notre savoir-faire à nous et notre goût à nous. C'est plutôt ça le cahier des charges qu'on a. Et c'est plutôt, on est très exigeant avec nous-mêmes. On aime que le produit soit quand même parfait, que le client s'y retrouve. On essaie d'être le moins cher possible. On essaie aussi, le cahier des charges, c'est pas qu'aussi dans la fromagerie, c'est aussi avec les bêtes. On essaie de respecter le maximum possible les bêtes, c'est ce qu'on fait au maximum. Donc voilà, on vit à leur rythme, on leur laisse faire travailler tranquille, on les presse pas dans la journée. Voilà, on leur laisse faire leur vie le plus sainement possible, le plus naturellement possible.
Une fois que le fromage est fait, comment vous faites? Vous le vendez sur des endroits spécifiques? On vous connaît? Vous jouissez d'une réputation?
Alors la réputation, on l'a pas trop encore parce qu'on est quand même très récent. Pour la vente, on a le marché d'Entrepierre qui a été créé du coup par les agriculteurs d'Entrepierre. Donc on est 4 agriculteurs sur ce marché. Donc il y a Didier Allard en porc, on a Marion Curti qui est en viande de bœuf, on a Vincent et Ophélie qui sont des maraîchers sur Entrepierre. Et après donc on a nous en fromage de brebis. Voilà, et on vend principalement sur ce marché-là. Et après, on va peut-être démarrer le petit marché qu'il y a aussi à Salignac. Donc, le marché d'Entrepierre, c'est le dimanche matin, de 10h jusqu'à 12h30. Et après, on a le petit marché de Salignac, qui est donc le petit village à côté d'Entrepierre. Donc, vous êtes à peu près un quart d'heure de Sisteron. Je crois que c'est 17h jusqu'à 8h le soir. Le mercredi soir, si je ne me trompe pas, c'est bien ça.
Comment se passe la relation avec les élus? Parce que vous êtes dans une commune où il faut à tout prix compter sur non seulement l'environnement, mais également tout un tissu relationnel qu'on se fait aussi.
Ben, les élus, on compte bien sur eux. Ils sont quand même pas mal sur l'agriculture. Ils sont quand même pas mal dans ce mouvement-là. Ils comprennent qu'on est dans un milieu rural quand même, qu'on est dans la campagne, quoi. Donc non, ça va. Sur ça, on est quand même bien épaulés. Ils nous écoutent assez, tous les agriculteurs qu'on est quand même, même si on a quand même quelques indifférences, c'est normal. On peut pas être toujours tous d'accord sur la même chose, c'est pas possible, on n'est pas dans un monde, on peut pas avoir un monde parfait, normal, et c'est quand même bien. Et donc non, sur les élus, sur la commune, on est quand même bien épaulé, même aux alentours, sur Sisteron, on est quand même bien épaulé, on est quand même sur une épicentre qui vit de l'agricole. On est sur des endroits très agricoles quand même, mais on reste raisonné quand même sur les alentours, on n'est pas trop sur des grosses cultures comme on peut avoir dans le centre de la France ou quoi, ou d'autres endroits, ou comme dans l'Aveyron, en brebis quand même, on est sur pas de l'intensif, je dirais pas, mais on est quand même sur de la belle exploitation. Nous, on est quand même sur des exploitations en taille humaine, voilà, on est bien rationnel avec les bêtes, quoi.
Benjamin, j'ai l'impression que pour faire ce que vous faites, il faut avoir l'esprit d'un aventurier, mais également avoir bien les pieds sur terre aussi.
Oui, aventurier, il faut l'avoir, il ne faut pas avoir peur du travail, il ne faut pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses. Il ne faut pas se brusquer, il faut toujours se remettre en question tous les jours, parce qu'on a un métier qui est quand même le plus variant possible et le plus... dans notre métier, il y a tellement de métiers qu'on ne pourrait même pas tous les citer. Donc il faut être de partout, il faut être autant dans les bêtes qu'il faut être en fromagerie, il faut être dans les terres, il faut être agronome, il faut être mécanicien parce que ça ne marche jamais comme on veut les machines non plus, il faut le dire. On est de partout et après il faut avoir les pieds sur terre parce qu'on est quand même un métier où on dépend de la nature, on ne décide rien, parce qu'il faut bien le savoir, et voilà, on ne décide rien, on ne décide pas ce qu'on fait. Donc c'est la nature, si un jour les brebis elles n'ont pas envie de prendre le bélier parce qu'elles n'ont pas envie, parce qu'elles n'ont pas envie de travailler, ça sera leur choix et voilà, on ne peut rien faire contre. Il y a des méthodes mais que j'accepte pas et qui ne sont pas normales pour moi, comme par exemple l'insémination. Donc moi je trouve pas ça, c'est pas mon cahier des charges, ça me plaît pas.
Laisser faire la nature.
Moi c'est laisser faire la nature, la suivre au maximum, l'écouter, voilà, prendre le temps d'aller dans les champs, prendre le temps avec les bêtes de se poser. Même si ça vous prend une heure dans la journée de les regarder faire comment elles le font, on se dit ah ben celle-là elle est moins bien que celle-là, donc on va regarder un peu, on va essayer de voir ce qu'elle a. Aussi pareil que dans les terres, prendre le temps d'aller voir les terres, de regarder ce qui se passe dans notre sol, connaître notre sol aussi, connaître la vie de la nature de d'ici, parce que d'ici c'est pas entre Sisteron et entre Pierre, il y a une différence de la nature, c'est normal. Donc il faut apprendre à la connaître et bien l'écouter, surtout si on veut faire les choses comme il faut.
J'ai l'impression que dans votre réflexion, il y a énormément de respect par rapport à tout ce qui vous entoure et d'humilité aussi.
Oui, après du respect, on en a énormément parce que la nature, on ne l'a pas menée comme il fallait. Je pense qu'après l'après-guerre, ça a été beaucoup de la surexploitation, ça a été beaucoup de la surmenée. Et donc aujourd'hui, quand même beaucoup d'agriculteurs en France, il faut le dire, font marche arrière, recommencent à écouter la nature, recommencent à faire parce qu'il y a des énormes efforts qui sont faits pour tout le monde et par tout le monde, qui sont quand même compliqués parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs en France qui font quand même de gros sacrifices pour ça. Comme par exemple nous, sur notre style de vie, quand même, on fait quand même de sacrés sacrifices parce qu'on est obligé de les suivre tous les jours. On pourrait les désaisonner comme par exemple faire le lait l'hiver, ça serait beaucoup mieux pour nous parce que du coup les journées sont beaucoup moins remplies. On a préféré les garder saisonnés donc dans leur rythme de vie naturel et donc on a le foin au milieu, on a beaucoup de choses au milieu, on a le travail des cultures, donc ce qui est normal, mais il faut vivre avec les animaux et avec la nature dans le sens qu'elle a envie de travailler et qu'elle a toujours travaillé. Voilà, il faut arrêter d'y faire faire marche arrière et d'essayer de la retourner, quoi.
L'harmonie, elle est bien présente dans le couple aussi, visiblement, avec Mathilde.
Oui, ça, on s'est bien trouvé. C'est une grande passionnée comme moi, on est tous les deux à fond dans ce métier. On donnerait tout pour ce métier. Ce métier, il faut le faire par passion. Celui-là qui le fait pour l'argent ou pour le bien-être, pour le bien-être, on est quand même... on a un métier dur, ça certes, mais on a un métier quand même qu'on fait ce qu'on veut parce qu'on est nos propres patrons. Voilà, si un matin j'ai envie de me lever plus tard, parce que j'ai envie de me lever plus tard, je me lèverai plus tard. Par contre, le soir, il va falloir que je cours parce que je finirai plus tard. Mais bon, ça, c'est moi qui l'ai décidé. On a une grosse chance là-dessus. Après, voilà, on a quand même toujours la contrainte de la nature parce que c'est elle, notre grande patronne. Et que on ne peut pas discuter avec elle. Si elle a envie de vous faire n'importe quoi, elle vous fait n'importe quoi. Elle ne fera jamais n'importe quoi parce que c'est elle qui décide ce qu'elle fait. Et après, non, et Mathilde, on s'est bien trouvé. On est deux grands passionnés et deux travailleurs à fond. Et voilà, on bosse au maximum comme on peut et le mieux possible.
Le bonheur, il est là ?
Oui, le bonheur, il est là. C'est compliqué parce qu'on a quand même un travail. C'est un peu dur quand même parce qu'on ne dort pas beaucoup et qu'on travaille. Mais non, le bonheur, il est là parce que c'est notre vie et c'est notre passion. Si on donnerait tout, moi, je donnerais tout pour cette passion. Je suis né là-dedans, ça fait depuis l'âge de 5 ans que je suis dedans. Donc, je donnerais tout pour ce machin et voilà, je ne le lâcherai jamais. Je donnerai tout ce que je peux pour toujours l'avoir et pour l'améliorer au maximum. Voilà, c'est ma conviction et c'est voilà, mon traçage, il est comme ça. Voilà.
Benjamin, être éleveur en France à l'heure actuelle, quel est votre sentiment ?
Aujourd'hui, ça va mieux qu'il y a quelques années en arrière. Moi, ça fait donc je suis là-dedans depuis que j'ai 5 ans. Hein. J'ai mon oncle qui était viticulteur et mon cousin qui avait des brebis laitières. Donc, je suis là-dedans depuis extrêmement longtemps. Ça commence à faire un peu quand même. Et je vois quand même que les mentalités auprès des gens commencent à changer. Les gens nous soutiennent quand même. Il y a eu des gros changements qu'on fait que les agriculteurs ont... ont eu du mal à s'adapter. Il faut le dire quand même, ça a été compliqué. Il y a eu beaucoup de remises en question sur certains agriculteurs. Moi, j'ai travaillé dans l'Aveyron pendant 2 ans, dans des brebis pour le lait pour Roquefort, avec la Laconne. On était sur des grosses exploitations. Il y a à peu près 20 ans en arrière, ils ne travaillaient pas comme ils travaillent maintenant. Ils travaillent avec beaucoup plus de bêtes aujourd'hui, mais mieux. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus pousser les bêtes vraiment dans leur extrême. Et je vois quand même qu'il y a beaucoup d'agriculteurs en France qui commencent à se remettre en question sur leur élevage, sur leur façon de travailler, sur leur façon de faire. Aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs arrêtent les produits phytosanitaires pour partir beaucoup plus sur du désherbage par exemple naturel. Moi je parle parce que j'ai des collègues qui sont là-dedans, qui se battent pour partir là-dedans. J'ai des collègues aussi qui sont donc en céréales et qui font beaucoup de céréales anciennes. C'est des contraintes énormes parce que les récoltes sont incertaines, parce qu'on travaille avec des espèces qui ont quand même, il y en a qui travaillent des espèces qui ont 80 ans. Donc pendant 80 ans on les a plus menées, donc on ne sait plus rien de ça. Comme par exemple la brigasque qui a failli se perdre, mais heureusement dans la brigue il y a beaucoup d'élevages qui sont battus pour qu'elle reste en France. Elle a failli disparaître parce que c'est une brebis laitière, mais c'est une brebis qui n'a pas autant de lait qu'une laconne par exemple. Une brigasque elle va vous faire par exemple entre 0,5 et 0,8 litres par jour, donc ce qui est rien du tout comparé à une laconne, vous allez tenir entre 1,5 litre et 3 litres par jour quoi. Donc c'est rien à voir avec les mêmes rendements, mais par contre vous avez de meilleurs rendements laitiers. Moi je trouve que quand même le fromage n'a pas le même goût quand même, on a quand même une meilleure qualité. Mais après voilà, beaucoup d'agriculteurs sont remis en question. Il y a beaucoup d'agriculteurs, comme j'ai un collègue qui est dans Saint-Étienne-de-Tinée, dans la vallée de la Tinée, et qui lui a un pastoralisme complet, il élève ses bêtes en pleine montagne toute l'année, donc lui c'est pareil, il se bat, on les voit beaucoup moins ces gens-là, parce que ben, ils sont pas sur les marchés avec nous tous les jours, ils sont beaucoup plus dans la montagne, ils ont pas envie de descendre non plus, parce que ben, ils en ont marre qu'on leur tape dessus. Parce qu'il faut dire ce qui est, ce collègue-là, quand il est là-haut, qu'il y a des gens qui passent en alpage et ne respectent pas les troupeaux, ils viennent se mettre au milieu, ils vous jettent des pierres parce que voilà, vous êtes au milieu, donc c'est quand même un peu grave. Mais ça va quand même mieux. Mais c'est des gens qui restent beaucoup en montagne, mais c'est des gens qui sont, ils vivent pour leurs bêtes et qui sont tous les jours, qui pleuvent, qui neigent tout le temps, tout le temps. Et j'ai un profond respect pour eux, comme pour les autres aussi, hein, parce que tout le monde se lève un truc magnifique. Et surtout, ce que les gens, ils sont en train de reprendre conscience que les agriculteurs français, sans eux, ils sont morts. Et il faut bien. C'est des mots durs que je prends, mais je fais exprès de les prendre parce que voilà, c'est en France, sans l'agriculture française, on est cuit. C'est pas avec les intrants qu'on fait rentrer qu'on peut vivre. Et l'agriculture française est très importante. On est quand même je trouve qu'on est une des plus belles agricultures du monde. On travaille quand même bien en France, même s'il y a beaucoup de choses à améliorer encore. Mais je trouve quand même qu'on travaille très bien et que les gens essaient de s'améliorer au maximum tous les jours. Comme nous, par exemple, on essaie de se remettre tous les jours en question et de trouver la meilleure méthode de travailler avec les bêtes. Et voilà, dans le respect des bêtes au maximum. Et voilà. Il y a une grosse remise en question dans le monde agricole aujourd'hui et c'est important. Et donc moi, je parlais donc des petits agriculteurs, mais même les grands agriculteurs que je côtoie aussi. Je côtoie des gros agriculteurs qui se remettent beaucoup en question aujourd'hui pour quand même respecter au mieux la nature et travailler au mieux. Quoi, voilà.
Durant les manifestations, bon nombre de personnes vous ont soutenu, vous ont compris. Est-ce que ça vous a surpris, ça ?
Oui, beaucoup. Parce que quand on a fait les manifestations, on a commencé, donc pour nous, on était sur le blocage de Sisteron sur l'autoroute. Donc, ben, bloquer l'autoroute, comme elle était fermée, on a bien compris qu'ils s'étaient foutu un peu de nous, l'administration française. Donc, on a dit, mais cette fois, on va bloquer le rond-point. Donc, on avait bloqué le rond-point de l'autoroute. Et franchement, les gens, autant que ce soit les camionneurs français que les gens du quotidien, nous applaudissaient à fond. Ils nous disaient, faites ce que vous faites et allez-y à fond et lâchez rien. Et c'est quand même magnifique et ça fait quand même du bien au cœur. Parce qu'on se sentait quand même délaissé dans ce monde un peu de malade, donc on se sentait un peu seul. Et c'est bien de retrouver du monde et de retrouver que la population est avec nous et qu'elle ne fait pas que nous arrêter et nous rabaisser. Elle nous augmente et elle nous met en avant et c'est très très beau pour l'agriculture française et c'est magnifique. Quoi. Ça nous fait du bien, nous surtout jeunes qui nous installons, qui sont quand même dans ce moment, une crise quand même pas économique, mais c'est quand même dur aujourd'hui. C'est pas pareil que s'installer il y a 20 ans ou 30 ans en arrière. 20 ans ou 30 ans en arrière, c'était beaucoup plus facile, je pense. Même si, bon, il faut le dire quand même, on a des aides. On est aidé quand même par l'Europe. Ça, il faut pas y cracher dessus parce que tout le monde les prend, mais pas grand monde le dit ça aussi. Mais sans l'Europe, il y a beaucoup d'agriculteurs en France qui seraient mal. Parce que ben, malheureusement, ils se sortent plus de salaire, ils y arrivent plus. Il y en a qui font 90 heures semaine, voire plus. Nous, on est quand même à... Je ne saurais pas dire combien d'heures par semaine, j'ai pas envie de dire bêtises, donc je ne sais pas. Mais on fait quand même des heures, et pour gagner notre vie, c'est compliqué aujourd'hui. Parce que tout augmente, par exemple le gasoil pour les machines, donc on n'a pas le choix de travailler avec des machines aujourd'hui. On a 1,20€ du GNR, ce qui est énorme, quand vous savez qu'un tracteur va vous consommer. Alors ici, on a la chance d'avoir des petits tracteurs, des petits espaces, donc on ne consomme pas non plus énormément. Mais quand vous voyez qu'un tracteur il vous consomme 90 litres jour, ça commence à faire des sous. Et acheter tout, c'est pas possible. parce qu'il faut quand même qu'on s'en sorte. Le problème, c'est qu'on ne peut pas assassiner le consommateur, parce qu'il faut quand même que le consommateur s'y retrouve, parce que même pour lui, c'est dur aujourd'hui, c'est dur pour tout le monde aujourd'hui. Donc il faut quand même que voilà, tout le monde se mette un peu, pas de remise en question, mais il y a des remises en question à faire, mais beaucoup plus haut. Voilà, dans l'État, et il faudrait qu'ils revoient un peu leur système et tout ça, mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, c'est compliqué s'installer, c'est compliqué pour les agriculteurs en général, parce que même si vous vendez, par exemple, je prends l'exemple d'un céréalier, 600 euros tonnes de votre blé, derrière, vous n'arriverez jamais à payer vos ouvriers comme il faut, vous n'arriverez jamais à rembourser votre crédit, parce qu'il faut, il y en a des crédits de machine quand même, parce qu'on est obligé de s'améliorer aussi dans la mécanisation, parce que sinon, ben, on meurt, on n'y arrive plus. Et ça nous coûte énormément d'argent et énormément de temps aussi. Il y a peu d'éleveurs en France qui arrivent à se sortir un salaire. Beaucoup baissent les bras. Beaucoup, j'avais un collègue il n'y a pas tellement longtemps, son grand-père lui a dit « Prends pas le flambeau parce que tu vas mourir, quoi. Tu ne vas pas y arriver. » Donc c'est malheureux de dire ça. Aujourd'hui, mon père a voulu s'installer en agricole. Son grand-père lui a dit non parce que ben, c'était trop compliqué à cette époque-là. Et c'est là que ça a commencé à monter vraiment. Moi, je vous parle de ça il y a peut-être 40 ans ou 50 ans en arrière. Et c'était quand même déjà compliqué. Alors aujourd'hui, ça commence à... Voilà, tout le monde serre la vis, sauf que ben, les agriculteurs en France, à force de serrer la vis, ils n'y arrivent plus. Parce qu'on ne peut pas défoncer le consommateur. Parce que le consommateur, ben, il arrive un moment, il est comme nous. Il n'y arrive plus. Et on a une filière qui souffre aujourd'hui. Bon, on n'est pas tout seul. Il y a quand même les boulangers, et je vais en oublier beaucoup, qui souffrent aussi de l'augmentation des prix. C'est compliqué aujourd'hui d'y arriver et de s'en sortir, d'avoir un salaire, quoi. On vit bien parce qu'on a un mode de vie quand même qui est assez souple, comme je disais tout à l'heure. Mais arriver à se sortir un salaire et arriver à vivre correctement tous les jours sans trop se poser de questions et pouvoir dormir tranquille, c'est compliqué aujourd'hui. C'est extrêmement compliqué.
Mathilde, qu'est-ce qu'il faut faire là maintenant ?
Il faut aller chercher le bélier, c'est à son tour d'être tondu. Et après, on a fini. Et le tondeur, il sera bien soulagé, je pense.
Qui va aller chercher le bélier ?
Certainement Benjamin et moi, parce que c'est une grosse bête cornue. Donc il faut un petit peu... on est assez de deux pour le mener à la bergerie.
J'ai remarqué que vous aviez beaucoup d'attention envers les bêtes tout à l'heure pour la tonte. Vous les teniez, vous leur parliez ?
J'essaie au maximum de les détendre parce que c'est des bêtes assez stressées et du coup on travaille avec elles tous les jours donc on essaye de faire attention et qu'elles s'habituent le plus à nous. Là en plus c'est les agnelles, c'est leur première année avec nous donc c'est le début de notre relation entre éleveurs et animaux donc il faut essayer de bien démarrer et de leur montrer qu'elles craignent rien avec nous, quoi.
Les chiens ils sont indispensables.
Ben oui, il y en a une qui est là pour les protéger. Donc elle a été mise au troupeau, elle avait 3 mois juste après avoir été sevrée. Et pour que les brebis, elles sachent qu'elle fait partie de leur famille et qu'elle est là pour les protéger. Elle est là pour la prédation parce qu'on a un petit peu de passage de loup ici. Alors on n'est pas non plus complètement omniprésent, mais on en a un peu. Donc pour leur bien-être aussi, on n'a pas envie de se faire attaquer les bêtes, voilà, tout simplement, enfin, c'est normal. Donc elle est là pour ça, pour impressionner un petit peu. Et la deuxième, c'est pour les mener, parce qu'on aimerait bien les faire bouger de la maison. On a des terres un petit peu plus bas. Et si c'est pour traverser des prairies ou des routes, où on a besoin d'un chien pour les mener, donc ça nous aide.
Depuis ce matin, la cadence est très rapide, aussi bien pour Benjamin que pour vous, Mathilde. À quel moment est-ce qu'on fait un break et comment vous le faites, le break ?
Souvent, c'est après manger, petite sieste, sauf quand il y a les foins. Là, quand il y a les foins, il faut envoyer, on n'a pas trop le temps de se poser. Mais après, si on commence tôt le matin, on est assez tôt à la maison. Vers 19h, on a fini et après, on peut vraiment se poser. Et voilà, après l'été, c'est différent. Même si on a des grosses journées, il fait beau, on prend le temps, on a les collègues au-dessus. Souvent, vu qu'on travaille ensemble, on va chercher du matériel, on en profite pour discuter, pour se poser, pour machin. Donc c'est agréable. C'est agréable même s'il y a du travail. On est bien.
Spécialiste de la tonte, et je crois que le terme est vraiment adapté parce que c'est un métier dont on n'a pas idée et c'est tout un art ce que vous faites.
Et oui, effectivement, c'est à la fois un métier et puis aussi un peu un sport et une manière de se maintenir en forme tout en gagnant sa vie de manière honnête, en rendant service, en collectant la laine, malheureusement aussi souvent en débarrassant la laine des brebis puisqu'elle n'est pas forcément récupérée. Mais oui, c'est un métier passion.
Sportif, vous l'avez dit, hein, parce que je vous ai vu faire, il faut vraiment bloquer la bête, il faut être en même temps très attentif et très délicat. Vous faites ça avec beaucoup de soin.
Et oui, c'est un peu comme le rugby, c'est un sport de brute pratiqué par un gentleman. C'est-à-dire qu'il faut quand même ne pas être dans la force, parce que comme elles sont plus nombreuses que nous, elles finiront de toute façon par nous épuiser. Donc il faut trouver un moyen de les maintenir et plutôt que de les contenir pour qu'elles ne bougent pas, qu'elles présentent des plats suffisamment grand pour pouvoir passer le peigne qui lui est plat, sans les couper, sans laisser de laine, et évidemment le plus vite possible avec le plus de confort pour l'animal, pour éviter qu'il se débatte de toute façon, et pour nous aussi.
J'ai remarqué que vous faites très attention également à la forme physique de la bête. Vous relevez les petites anomalies ou quoi que ce soit, de façon à avertir le propriétaire.
Et ben, c'est aussi l'occasion à la tonte d'inspecter les brebis sous toutes les coutures, puisqu'on les tond intégralement, ventre, pattes, tête et autres. Et c'est un moment qui peut s'inscrire dans la politique sanitaire du troupeau de cette manière, puisque dès qu'il y a un petit problème est là, on peut le voir vraiment attentivement, beaucoup plus facilement que quand on voit le troupeau en laine passer juste devant soi. C'est l'occasion de vraiment approfondir une blessure, un abcès, une mammite, une inaptitude, quelque chose comme ça.
Vous faites un métier qui est rare, et vous êtes très demandé donc de ce fait. Comment ça se gère? Parce qu'il y a beaucoup de demandes et pour un périmètre qui est très vaste.
Alors, on bouge beaucoup. On est un certain nombre en France, puisqu'il y a beaucoup de gens qui font ça aussi de manière plus ou moins amateur ou plus ou moins professionnelle. Ça dépend comment on regarde les choses. Beaucoup font ça en travail saisonnier. Après, normalement, en France, tous les moutons sont tondus. Donc, chaque troupeau a son tondeur. Après, il y a des histoires d'affinité pour les propriétaires, pour les races, etc. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde économique un peu tendu. Du coup, le gros de l'organisation consiste à ne pas trop rouler, ne pas dépenser trop d'énergie et d'argent en kilomètres, et à essayer d'organiser le travail pour que ça satisfasse à la fois l'exigence économique du tondeur et aussi l'exigence zootechnique de l'éleveur pour que ce soit le bon moment par rapport à la lactation, à la gestation, à la mise bas, etc., la montée en montagne, les températures, le climat, la pousse de l'herbe, etc., etc., etc. Il faut jongler un peu, mais un gros morceau du travail est l'organisation.
Organisation, un sacré métier que vous avez en main. Comment est-ce qu'on devient tondeur? Parce qu'il y a le métier, bon, il y a la pratique, il y a la technique, et il y a tout ce qu'il y a derrière aussi, cette partie en même temps d'études qu'il faut respecter pour suivre le cursus.
Alors, il n'y a pas de formation à proprement dit de tondeur diplômante. Par contre, il y a l'Association des tondeurs de moutons, qui est une association nationale qui regroupe la profession et qui organise des formations, des stages. Bon, ce sont des stages assez pratiques, sur une durée de 3 jours, qui peuvent donner le béaba de la méthode de tonte, puisque voilà, celle qui est enseignée ici, c'est la méthode néo-zélandaise, qui permet d'avoir la toison en un seul morceau sur la brebis sans l'attacher. Et en fait, voilà, on a le béaba de la méthode, un peigne, une tondeuse, des consignes de sécurité, les premières passes. Mais la formation se fait vraiment sur le tas avec des équipes de tonte, des gens qui veulent bien prendre quelqu'un qui débute et lui donner les clés, lui apprendre à se servir de son matériel, à reconnaître tel type de laine, tel type de brebis, etc., etc. À essayer de déjouer les pièges aussi, parce qu'il y en a. Et voilà, c'est surtout sur le tas que ça s'apprend.
Quelle relation il y a entre vous et la brebis? Il y a beaucoup de feeling. Vous regardez, vous touchez, vous parlez en même temps aussi?
Oui, alors c'est à la fois notre gagne-pain, c'est à la fois le plaisir de la tonte et de la glisse. C'est aussi un animal de rapport pour l'éleveur, ça il faut pas l'oublier non plus. Ou un animal de compagnie dans le cas des troupeaux dits brebis tondeuses ou les tout petits lots pour les particuliers. Et en même temps, ça reste une brebis qu'il va falloir tondre, quel que soit son état et son caractère. Donc il y a aussi quand même une grosse part d'adaptation, parce qu'encore une fois, elles sont plus nombreuses que nous, et il va falloir ruser. On ne pourra pas y aller par la force. Ou alors, si on doit y aller par la force, ça ne durera pas. Parce que, en fait, sur un troupeau de 100 ou 200 brebis, si on doit forcer sur toutes pour les convaincre de se laisser tondre gentiment, on n'y arrivera pas.